Oui, selon Gilles Aéry, président de la maison d'édition, plus d'ambiguïté, Éric Zemmour lui aurait récemment confirmé son intention de s'engager dans la présidentielle et cela justifie cette rupture de contrat. Mais ce matin, démenti par communiqué d'Éric Zemmour lui-même, cette conversation inventée laisse à penser que le patron des éditions Albin Michel a été l'objet de diverses pressions, accuse le polémiste Éric Zemmour, qui continue donc de laisser planer le doute. Certes, selon ses proches, la contre-performance du RN aux élections régionales ouvre un créneau pour une autre candidature de droite nationale. Mais dans les faits, en PACA notamment, la liste qui se revendiquait zémourienne a fait au premier tour 1,66% des voix, pas très encourageant. Dans la même veine, ce récent sondage IFOP qui le crédite de 5,5% de voix au premier tour de la présidentielle, mais des voix qui viennent de LR et qui n'handicapent pas le RN. Vous le voyez, électoralement, à 9 mois de la présidentielle, le chemin est encore sinueux et les obstacles logistiques nombreux. Coller des affiches dans la nuit, c'est une chose. Organiser une campagne, c'en est une autre, me glissait ce matin un ancien conseiller de Marion Maréchal.
En tout cas, Albin Michel perd deux auteurs qui font de grosses ventes, Zemmour donc, et Philippe Devilliers qui quitte l'éditeur par solidarité avec Éric Zemmour. Et puis dans la série des avanies pour Marine Le Pen, avant le congrès du RN samedi et dimanche, le journal de bord vidéo de son père, Jean-Marie Le Pen, après l'échec au régional, il souhaite que le RN retrouve sa virilité, ou bien ce sera la disparition. Nous parlions d'Éric Zemmour, c'est l'éditorialiste vedette de CNews. CNews qui se rapproche d'Europe 1, deux émissions en commun prévues à la rentrée, ce qui inquiète beaucoup de salariés de la radio. Ils refusent que leur station généraliste devienne un média d'opinion. Accusation régulièrement adressée à CNews, groupe Vivendi de Vincent Bolloré. Bolloré, premier actionnaire désormais d'Europe 1. La transformation du groupe, la perte de contrôle d'Arnaud Lagardère est actée aujourd'hui en Assemblée Générale. Alors après 5 jours de grève ce mois-ci, eh bien la Société des rédacteurs d'Europe 1 et l'intersyndicale appelaient ce matin à un rassemblement devant la radio pour dénoncer l'emprise croissante de Vincent Bolloré. Vous y étiez, Alexandra Kuhn.
Oui, bonjour Bruno.
Bonjour,
et rassemblement qui a réuni plus de 150 personnes ce matin devant les locaux d'Europe 1. Beaucoup de journalistes, dont d'anciennes voix de la station, Talane Sinclair.
Ça m'inquiète que d'un groupe qui était réputé pour son indépendance soit à la fois dépecé et menacé peut-être dans son indépendance. Si Europe devient CNews, je trouve ça un recul pour l'information.
Voilà pourquoi tant d'émotions ce matin au moment même où débutait l'Assemblée Générale des Actionnaires de Lagardère. Alors avant d'aller présenter son journal, car vous l'avez dit, Europe 1 n'est plus en grève, Patrick Cohen a pris la parole au nom de la Société des rédacteurs de la station.
C'est pas une question d'orientation politique. Toutes les opinions sont respectables quand elles sont étayées par des faits. Le pluralisme, le débat d'idées sont au cœur de nos métiers. Mais le modèle qui est en train de gagner aujourd'hui, c'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, mais au contraire à créer des controverses, des fractures, à dresser une partie de la France contre l'autre. C'est ça que nous refusons.
Car aujourd'hui disparaît la commandite Europe 1 au profit d'une société anonyme dont Vivendi aura le contrôle. L'économiste des médias Julia Cagé en a donc appelé à un autre actionnaire de cette société anonyme, la Caisse des dépôts et consignations, autrement dit l'État.
Jusqu'où comptez-vous laisser Vincent Bolloré aller ? 27% de Vivendi, qui possède 29% de Lagardère. Est-ce que ça doit donner le droit à un seul homme de prendre le contrôle sur toute une radio sans aucune garantie d'indépendance éditoriale ?
En attendant d'éventuelles réponses, les salariés d'Europe 1 promettent d'autres actions contre cette main de Vincent Bolloré qui est en train de se refermer sur eux.
Et nous parlions tout à l'heure de la nouvelle étape du déconfinement aujourd'hui. D'autres changements importants auront lieu dans les heures à venir. Ils entrent en vigueur le 1er juillet. Le congé paternité pour le père ou le second parent passe de 2 à 4 semaines, dont une obligatoire. Le prix du gaz augmente de 10% demain, conséquence de la hausse du cours mondial. Baisse des indemnités au titre du chômage partiel. Et puis bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Des changements si on s'apprête à acheter une voiture.
Ouais, des changements significatifs, puisqu'avec les nouvelles règles qui entrent en vigueur, si jusqu'ici il était encore possible de bénéficier d'une prime à la casse pour l'achat d'un véhicule diesel récent, c'en est terminé, et ce même si ce véhicule respecte les dernières normes imposées. Le plafond des rejets de CO2 est abaissé, c'est un changement de braquet, les taux se resserrent et le bonus écologique évolue aussi. Si vous faites partie de ceux qui lorgnent en concession sur une voiture électrique, à partir de demain, c'est 1 000 euros de plus que vous devrez sortir de votre poche. L'aide de l'État passe de 7 à 6 000 euros. Pour l'achat d'une hybride rechargeable, baisse de moitié aussi, de 2 000 à 1 000 euros. Et ce, avant un nouveau serrage de vis à partir de janvier, date à laquelle, comme les véhicules diesel, ces hybrides rechargeables sortiront à leur tour du dispositif dont les Français ont eu le temps de bénéficier, estime le gouvernement. Il va donc continuer à diminuer progressivement.
Et ce mercredi marque aussi le début des soldes d'été, alors que la consommation a grimpé de 10% en mai par rapport à avril. Le secrétaire général du premier syndicat de France, la CFDT, Laurent Berger, était ce matin l'invité de nos confrères de France Info, interrogé sur l'hypothèse d'un relèvement de l'âge de départ à la retraite, 64 ans au lieu de 62, c'est envisagé. Voici sa réponse.
Ce qui est sûr, c'est que la CFDT, elle est opposée à un relèvement simple et brutal de l'âge de départ à la retraite, et que le faire cet automne, parce que ce serait la seule voie de passage, c'est politiquement totalement dingue, et socialement ce sera explosif.
Laurent Berger ce matin sur France Info. Il y a 30 ans, l'histoire passait en Afrique du Sud. Les lois d'apartheid étaient abolies. Que reste-t-il du combat des militants derrière Nelson Mandela et les autres contre ce régime raciste? Eh bien, le souvenir s'atténue. Exemple avec cette photo de famille, les deux frises captées par Romain Chanson.
Des histoires d'anciens combattants. Voilà à quoi Janos de Vries compare les récits de son père, ancien militant anti-apartheid dans les années 80, s'est dit sans irrévérence ni admiration.
Pour les enfants qui ont grandi avec des parents comme les miens, je pense qu'on partage le même sentiment, une vision discordante de l'histoire, entre l'idée que nous avons gagné et les luttes matérielles et culturelles qui restent à mener.
Peut-être un peu jeune pour avoir ces revendications en tête, Rosa, la sœur de Janos, parle de l'apartheid comme d'un cours étudié à l'école. Elle a 15 ans, elle fait partie des Born Free, cette génération née après la chute du régime.
Avant, je voyais ça comme un très lointain passé. Et puis je suppose que l'école m'a permis d'en savoir plus sur le contexte et maintenant je réalise que c'était il n'y a pas si longtemps.
Janos et Rosa peuvent compter sur leur père, Jonathan De Vries, pour donner corps aux leçons apprises à l'école. Séjour en prison, situation à haut risque, il regorge d'anecdotes. Pour autant, il ne voit pas l'histoire de la lutte comme quelque chose de sacré.
Ce que je n'aime pas chez ma génération, c'est ce désir obsessionnel d'être commémoré. Laissez les gamins tranquilles, laissez-les écrire leur propre histoire.
Et s'il devait leur donner un conseil d'ancien militant, le travail n'est pas fini. À Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
Une page d'histoire se tourne aussi en Chine. Le paludisme y est éradiqué, selon l'Organisation mondiale de la santé. On recensait 30 millions de cas encore par an dans les années 40. Et puis deux femmes qui ont écrit l'histoire face à face bientôt. Angela Merkel sera reçue vendredi par la reine Elisabeth à Windsor. C'est la cinquième étape du Tour de France cycliste aujourd'hui. C'est un contre-la-montre. Contre la montre entre Changé et Laval en Mayenne, 27 km. On va voir qui sont les hommes en forme de ce début de tour. Fanny Lechevestrier, vous êtes en direct du tour. C'est devenu rare un contre la montre aussi tôt dans la course, Fanny.
Oui, c'est même une grande première tout simplement depuis 2008 de le retrouver aussitôt dès la première semaine. Un premier tournant pour les favoris qui, les organisateurs l'espèrent, va en fait dynamiser la suite de la course. Certains devront attaquer en montagne pour tenter de rattraper le temps perdu, car il y aura forcément des écarts après 27 km de contre-la-montre, prévient Thierry Gouvenou, l'homme qui trace le parcours du tour.
La distance est quand même assez longue, 27 km. Il y a moyen de perdre plus de 2 minutes, je pense, pour les moins bons rouleurs. Et devront après réagir pour essayer de rattraper ce temps perdu. La question, elle est là. Voilà, je ne sais pas à quel niveau va se situer Pogacar aujourd'hui. J'aimerais qu'il n'écrase pas le tour aujourd'hui.
Le contre-la-montre, un exercice très exigeant, où on ne devient pas un cador du jour au lendemain, où l'on doit adopter une position particulière, Bruno, sur un vélo spécial. C'est pour cela, par exemple, que Mathieu Van Der Poel, novice dans la discipline, ne pense pas garder le maillot jaune ce soir. En revanche, pour répondre à Pogacar, le vainqueur du dernier tour, eh bien, tous les favoris pour la victoire finale ont travaillé. Roglic, qui avait vécu un cauchemar, vous vous en souvenez l'an passé, a multiplié les entraînements sur son vélo de contre-la-montre jusqu'en soufflerie. Julien Alaphilippe, qui rêve, lui, d'aller chercher le jaune ce soir, et bien attester sa position sur le vélo tout le mois de mai en Sierra Nevada. On saura aux alentours de 17h15 si cela s'avère payant.
Julien Alaphilippe qui pour l'instant est deuxième au général à 8 secondes. C'est toujours Mathieu Van Der Poel qui est en jaune au moment où s'élance contre la montre. Merci Fanny Lechevestrier.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et bonjour Jean-Michel Golinski.
Bonjour Bruno.
Ça s'améliore, moins de pluie à l'ouest et du soleil au sud.
Ah exactement, la dépression qui a donné des orages sur bon nombre de régions ces derniers jours quitte maintenant le pays par les frontières de l'Est. Elles vont encore donner aujourd'hui un ciel plutôt incertain, ponctué d'averses et parfois de coups de tonnerre entre le nord de la Seine, les frontières avec l'Allemagne et la Suisse. Sur le reste du pays, la journée se place quand même sous le signe de l'amélioration, même si l'ambiance reste grisonnante sur le quart nord-ouest, avec par moments quelques gouttes. Dans la partie sud, là, le soleil déjà en forme va se maintenir, mais avec un vent d'ouest turbulent autour de la Méditerranée et des pointes jusqu'à 120 km à l'heure sur le Cap Corse. Les températures fraîches dans la partie nord ne vont pas dépasser 16 à 20 degrés du nord de la Loire au quart nord-est, contre 28 à 30 du golfe du Lion à la Côte d'Azur et sur la Corse. Il est prévu 25 à Auch et Agen, 23 à Lyon et 20 degrés à Paris ainsi qu'à Strasbourg.
Jean-Michel Golinski, Météo France, nous parlons cinéma tout de suite.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Important de parler de cinéma à double titre. Le rendez-vous du mercredi, c'est à Prix d'Amis aujourd'hui. 4 euros la place, c'est la fête du cinéma. C'est valable partout en France. Alors vous nous conseillez trois nouveautés. D'abord, le nouveau film d'Anne Fontaine, Président, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois.
On commence à créer un parti. Je crois, la France pour toujours, par exemple.
Bonjour à tous.
On fait la campagne et on est élu. Et la démocratie est sauvée, voilà. En gros.
Voilà, on les appelle dans le film Nicolas et François, ce qui logiquement devrait suffire hein, largement pour cerner le duo. Deux anciens présidents qui s'ennuient, qui vont faire équipe pour barrer la route à Marine Le Pen et au Rassemblement National avec un projet un peu foireux mais surtout improbable que l'on va suivre entre un sandwich au pâté et deux courses à vélo dans la campagne corrézienne. Le résultat est très drôle, le duo fonctionne. C'est plein d'humour, de mauvaise foi, de petites mimiques, de punchlines qui restent bien dans l'oreille. Bref, la comédie qui va bien pour démarrer la fête du cinéma.
Avec donc Grégory Gadebois de la Comédie Française et Jean Dujardin. Le casting n'est pas mal non plus cette semaine chez Yamina Benguigui. Le film s'appelle Sœur et nous parle de la guerre d'Algérie.
Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous.
C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés.
Voilà, Isabelle Adjani, Maywen, Rachida Brakni, trois sœurs nées en Algérie, mais qui vivent aujourd'hui en France avec un passé encombrant qu'elles ne gèrent pas toutes de la même manière. D'un côté, vous avez Isabelle Adjani qui a décidé de se libérer de tout, de raconter leur histoire dans une pièce de théâtre. De l'autre, sa mère, ses sœurs qui aimeraient oublier la présence violente, toxique d'un père ou d'un mari un peu violent qui a brisé la famille en enlevant il y a près de 30 ans le petit frère que plus personne n'a jamais revu. Voilà, c'est un film qui parle du manque, de famille déchirée, de la condition des femmes pendant et après la guerre d'Algérie, du phénomène aussi très répandu, des rapts d'enfants. Et puis il y a la question de l'identité, comment être à la fois français et algérien. C'est un film très dense sur un sujet qui n'est pas souvent abordé au cinéma.
Et puis Julie Delpy, My Zoé, c'est la troisième proposition de votre côté ce mercredi avec une histoire choc sur le thème de la maternité.
Alors pas forcément pour tout le monde, attention aux âmes sensibles, parce qu'il est question ici d'un sujet qui est très tabou, c'est la perte d'un enfant. Julie Delpy dans le film joue le rôle d'une mère généticienne qui vient de divorcer et qui va entretenir avec son mari, enfin son ex-mari, des rapports vraiment exécrables. Beaucoup de culpabilité, de manipulation. C'est un point de vue très sociétal, avec une analyse assez fine des situations, des personnages. Et une deuxième partie, davantage tournée vers des questions éthiques qui vous laisseront probablement sans voix.
On n'en dit pas plus pour ne pas divulgâcher. My Zoé de Julie Delpy. Corinne Pellissier, vous allez filer au Festival de Cannes très bientôt. Un dernier mot.
Oui, avant de vous quitter, Bruno, je voulais avoir un petit mot pour celle avec qui j'ai si souvent partagé ce fauteuil, celle qui m'a donné le goût du cinéma roumain en VO sous-titré en noir et blanc. C'est Eva Bétan, la grande voix du cinéma de France Inter, un regard unique et en ce qui me concerne, un vrai maître Jedi et une amie que je ne retrouverai hélas pas à la rentrée autour de la grosse bouilloire rouge du bureau pour le petit thé du matin. Eva quitte à la fin de cette saison notre open space un peu foufou du service culture, mais on ne se perd pas de vue par chance puisqu'elle reste à France Inter. Vous pourrez continuer le dimanche à profiter de son expertise dans Le Masque et la Plume et puis bien sûr le prix du livre Inter qu'elle dirige chaque année avec passion. Donc à très vite Eva, on t'embrasse fort.
Oh combien, à très vite Eva Bétan. Et puis vous parliez du Festival de Cannes, on retrouvera dans ce 13-14 tous les jours Laurent Delmas pour nous parler du festival à partir de mardi. Dans un instant, l'effet économique de la crise dans les territoires, étudié très finement et avec des propositions pour en sortir.
France Inter aime
Fontevraud, le musée d'art moderne, collection nationale Martine et Léon Kligman. Cet été, à l'occasion de l'ouverture du nouveau musée d'art moderne au sein de l'abbaye royale de Fontevraud, venez faire le voyage au cœur de la collection Kligman. Riche de près de 900 œuvres, peintures, dessins, sculptures et objets, explorez en famille ce musée d'exception au Pays de la Loire. Fontevraud, le musée d'art moderne, collection nationale Martine et Léon Kligman, un événement France Inter.
Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Quel a été l'effet économique et social de la crise sanitaire dans les différents territoires français et comment y répondre? Le député MoDem des Yvelines, Jean-Noël Barrot, a longuement enquêté et publie un rapport très concret, parfois surprenant quand on le lit en détail. Quelles zones particulièrement touchées? Quels effets de la crise sur le marché immobilier? Comment bien cibler les aides pour qu'elles soient efficaces? Au-delà du constat, le rapport contient une trentaine de propositions très concrètes. Alors vous êtes chef d'entreprise, salarié, particulier, qui a choisi pourquoi pas déménager depuis la crise. Nous attendons vos questions et témoignages pour dialoguer avec notre invité 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Premier constat dans votre rapport, les zones les plus affectées par la crise, je cite le top 3, la Tarentaise en Savoie, Roissy, Saint-Louis en Alsace, Vire en Normandie, Thouars dans les Deux-Sèvres, j'en ai cité 5. Ce ne sont pas forcément les zones qui étaient en difficulté auparavant. Pourquoi cela?
Absolument, c'est une des surprises qui a été celle de l'analyse que nous avons conduite. D'abord en nous déplaçant dans chacune des 13 régions de France métropolitaine et en mobilisant énormément de données assez inédites pour mesurer les effets de la crise. Et ce qui ressort, c'est une dimension territoriale très forte, beaucoup de différences entre les territoires, et puis des effets inattendus. Effectivement, la géographie de la crise, de la baisse d'activité, ne recouvre pas la géographie des fragilités préexistantes, la géographie des gilets jaunes. Et vous avez, dans le top 3 à 5 que vous venez de citer, des zones qui étaient prospères avant la crise, c'est le cas de la Tarentaise,
et des
zones qui étaient beaucoup plus fragiles, c'est le cas de Roissy par exemple.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces zones?
Eh bien, écoutez, l'activité a baissé, en partie pour la montagne en raison du tourisme. À Roissy, c'est l'activité aéronautique. Mais ce qu'on constate, c'est aussi que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas directement impactées par la crise, parce qu'elles n'ont pas fermé administrativement, par exemple, ont malgré tout subi une baisse d'activité parce qu'elles étaient à proximité, soit de centres urbains avec du télétravail, de l'activité partielle, soit à proximité d'entreprises aéronautiques, avec donc une baisse des services aux entreprises.
Il ne faut pas regarder que par secteur, il faut regarder localement par micro-région, si j'ose dire.
Absolument, vous pouvez être une entreprise donnée, dans un secteur donné, avoir une activité complètement différente pendant les 12 mois de crise, selon que vous êtes situé à Roissy ou selon que vous êtes situé dans le Maine-et-Loire.
Autre phénomène à la rubrique constat, on va parler pâtisserie un peu, l'effet donut. Alors là, il s'agit des déménagements. Possible amorce d'exode urbain, dites-vous, les mots sont forts mais vous êtes prudent. Possible amorce d'exode urbain, c'est l'idée que beaucoup de gens ont quitté le cœur des métropoles pour aller en périphérie et même en grande périphérie. Normandie, Loiret pour les Parisiens, Isère, Ouen pour les Lyonnais, la logique est la même à Marseille et Toulouse. Je donne un chiffre, second semestre 2019, second semestre 2020, la comparaison, hausse des acquisitions de biens immobiliers dans un autre département, plus 13%.
Absolument, plus 13%. Et quand on s'intéresse à Paris, par exemple, mais vous avez cité le Lyon, Marseille, on pourrait parler de Toulouse et de Nantes, le même phénomène se produit. On voit une augmentation de plus de 150% vers l'heure. On voit même augmentation de plus de 150% vers le Loiret. Et à l'inverse, on voit évidemment les acquisitions de maisons diminuaient en petite couronne parisienne et dans les destinations de résidences secondaires comme la Corse, etc. Et donc, vraiment, ce sont des gens qui ont acquis des maisons dans la périphérie, dans les départements périphériques, plus ruraux, moins denses. Et c'est une accélération très forte d'un phénomène que l'on pressentait déjà un petit peu se produire, mais qui, là, modifie profondément les dynamiques et les équilibres territoriaux.
Rééquilibrage, comment est-ce qu'on peut l'encourager pour qu'il soit durable et que ce rééquilibrage entre métropole les restes du territoire se confirment en quelque
Alors,
sorte.
Alors évidemment, il pose ce rééquilibrage un certain nombre de questions, puisque si vous avez des familles qui se déplacent à l'extérieur des grandes métropoles, va se poser un certain nombre de questions de services publics, par exemple. Mais il y a des situations pour lesquelles ce rééquilibrage est très positif. Je vous cite le cas de l'Ariège, où nous nous sommes rendus, qui est tout près de Toulouse, et où s'organise un pacte télétravail pour attirer des salariés de la métropole toulousaine vers la ville de Pamiers, qui est une ville de, de 20 000 habitants, dont le centre s'est dépeuplé au fil des années, qui est en déprise, et qui va donc pouvoir accueillir ces populations de l'agglomération toulousaine, leur offrir un cadre de vie meilleur, en leur proposant un logement, en proposant des solutions de garde d'enfants, en proposant un emploi pour le conjoint.
C'est ça le pacte télétravail, c'est des mesures très concrètes pour encourager au télétravail. Alors à mi-chemin du constat et des propositions, vous dites que les dispositifs d'aide par zone, définis depuis Paris, pour le dire de manière caricaturale, les quartiers prioritaires de la ville, les zones de revitalisation rurale, ça marche pas, le maillage est trop large. Et puis en fait, alors ça c'est un point intéressant, on en fait beaucoup sur les incitations fiscales qui ne marchent pas tellement non plus pour aller s'installer dans ces zones-là.
Oui, alors là on prend un petit peu de recul et on dit quelle a été la doctrine d'intervention de l'État face au risque de décrochage des territoires. Eh bien, pendant des décennies, ça a été une logique passive. On a des zonages économiques dans lesquels certaines entreprises peuvent bénéficier d'exonérations et le bilan de tout cela, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais. Depuis quelques années, l'État a changé son approche en prenant une approche plus ascendante, un peu plus bottom-up.
Voilà, on part du terrain.
On part du terrain, on crée des labels et charge au territoire de se coordonner, de se donner un constat partagé, une vision d'avenir pour le territoire. Et là, on va chercher le label et on mobilise toutes les énergies autour de ce label.
Je reviens sur les incitations fiscales. Il y a un point intéressant dans le rapport. Comment attirer de jeunes médecins dans les territoires? Typiquement, on met en place des incitations fiscales. Vous paierez moins cher l'installation de votre cabinet, etc. Ça marche pas tellement. Ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi et des services publics, de l'emploi pour la famille et des services publics pour la famille, là aussi, dans le territoire où ils s'installent.
Oui, c'est tout à fait vrai. En tout cas, c'est ce qu'ont montré les études qui sont intéressées à ces zonages. Et donc, pour résorber les déserts médicaux, il faut trouver d'autres solutions.
Alors, les solutions concrètes, vous parliez de ce pacte télétravail. Parlez-nous du prêt de main-d'œuvre qui a marché, par exemple, en Lot-et-Garonne.
Oui, alors nous, ce qu'on dit, c'est que les solutions, elles viendront des territoires. Pourquoi ? Parce que ils ont, à la faveur, si je puis dire, de la crise, repris leur destin en main. Nous, on a vraiment senti sur les territoires un vent de renaissance et que l'État doit accompagner cela. Et donc, ce que nous disons, c'est que pour la sortie de crise, il faut une stratégie coopérée, territorialiser, régénérer. Et le coopérer, c'est ce que vous dites. C'est le prêt de main-d'œuvre avec des exemples extraordinaires sur le terrain. On était en Lot-et-Garonne, où des salariés techniciens de l'aéronautique ont été mis à disposition par une entreprise qui était quasi à l'arrêt, chez le numéro 2 de la confiture que vous connaissez sans doute, Lucien Georgelin. Et ces techniciens vont aider Lucien Georgelin à optimiser ses circuits de production. Le prêt de main-d'œuvre a émergé pendant la crise. Le gouvernement en a facilité les modalités. Et ce que nous proposons, c'est d'aller encore plus loin, de pérenniser les assouplissements et de faciliter la diffusion de ce dispositif.
Assouplissement, par exemple, cumuler un CDD et le chômage partiel dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre, ça peut être quelque chose de cette
cumuler
nature-là.
Cumuler l'activité partielle de longue durée avec du prêt de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre et notamment de la main-d'œuvre qualifiée. Il faut que les entreprises qui sont en baisse d'activité, parce que leur secteur est particulièrement touché, puissent bénéficier de l'activité partielle de longue durée pour préserver leurs compétences, mais tout en mettant à disposition leurs salariés aux entreprises qui en ont besoin.
La désindustrialisation, pourquoi Jean-Noël Barrot, la Lombardie s'en sort mieux que certaines régions françaises ?
Bah écoutez, il y a des raisons évidemment multiples. Nous, ce que nous disons, c'est que à l'avenir et au-delà de toutes les mesures que nous proposons pour la sortie de crise, je l'ai dit, c'est la coopération entre les acteurs de terrain qui s'est beaucoup développée. C'est vraiment autour de l'idée d'un capital relationnel, d'un capital territorial entre tous les acteurs qu'il faut évidemment faire fructifier, territorialiser pour donner plus de levier à l'État sur les territoires et puis régénérer en libérant les énergies. Mais au-delà de la crise, il faut que nous puissions à minima, nous doter d'un instrument puissant qui unifie, qui concentre les leviers d'intervention de l'État en direction des territoires qui sont menacés de décrochage, de manière active, de manière bottom-up, ascendante, de manière responsabilisante pour les acteurs de terrain et pour éviter ce qu'on a vu pendant des décennies, c'est-à-dire des territoires qui décrochent avec conséquences économiques, conséquences sociales et puis à terme les conséquences politiques qu'on a vues pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Je reviens sur ma question sur la Lombardie, vous n'y avez pas répondu. Qu'est-ce qui se passe en Lombardie ? Un tissu de PME très important, très dense. La désindustrialisation en France, dans le Nord et l'Est en particulier, ça a souvent été le fait de grandes entreprises. Donc ce que vous dites, c'est que si on encourage les petites entreprises sur place, voilà, il y a un moyen d'enrayer cette désindustrialisation.
Tout à fait, vous avez raison et vous avez fait une meilleure réponse que je ne l'aurais fait à votre question. Ce qui est certain, c'est que effectivement en Italie, il y a une culture en Lombardie, d'alliance entre les entreprises pour aller chercher l'export, pour aller chercher les appels d'offres européens. jusqu'à présent, on s'était dit, en France, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de liens, il n'y a pas suffisamment de liens entre les entreprises. Ce que nous disons, nous, dans ce rapport, c'est que désormais, ces relations existent, parce que pendant la crise, les entreprises se sont serrées les coudes et que des liens se sont noués entre elles, et que c'est donc peut-être le moment d'essayer d'adopter ce modèle-là qui a fait le succès de la Lombardie.
Il faut aussi, vous dites qu'il faut partir du terrain, c'est pas toujours facile de, par exemple, de défendre ou de mener à bien un projet dans le cadre du plan de relance, de défendre un dossier. Vous dites qu'il faut qu'il y ait des gens dans les territoires, j'imagine des fonctionnaires qui soient là pour aider, piloter, accompagner les entrepreneurs dans la défense de ces projets de qu'ils ont pour leur entreprise.
Absolument, que ce soit des entreprises ou des collectivités, c'est vrai que quand on est un peu plus petit, c'est toujours plus compliqué de déposer des dossiers de candidature à tous ces appels à projets, les identifier, etc. Dans le jargon administratif, on appelle ça l'ingénierie, c'est-à-dire en gros le montage de dossiers. Et nous, ce que nous disons, c'est d'abord, il faut rendre l'accès à cette aide au montage de dossiers, à cet accompagnement plus simple. Et donc, on propose la création d'un site de rencontre entre l'offre et la demande d'ingénierie. On appelle ça ingénierie.gouv.fr. C'est un chef d'entreprise. Une collectivité, une petite collectivité, une petite commune peut tout simplement en ligne trouver toutes les facilités qui existent aujourd'hui pour beaucoup, qui ont été développées dans les mois récents, mais qui sont difficiles à trouver parce qu'on ne sait pas forcément où aller chercher. Et puis on propose effectivement d'envoyer un certain nombre de hauts fonctionnaires sur le terrain pour aider ces collectivités, ces entreprises à monter les dossiers. On a vu d'ailleurs des exemples intéressants comme en Moselle où les acteurs locaux ont créé les développeurs de France Relance, c'est-à-dire une quarantaine de personnes qui vont au contact des entreprises pour les aider à monter les dossiers, ou encore à Vierzon dans le Cher où le préfet a pris 10 services civiques, les envoie dans les collectivités pour là aussi les aider à identifier les bons appels à projets pour la relance et le rebond.
Je reviens sur les PME, vous dites une chose pour les encourager, chose forcément polémique, il faut encore assouplir le droit du travail. Ces entreprises-là en ont besoin, de votre point de vue, vous voyez la controverse que ça peut susciter.
Oui, alors ce que nous disons, c'est dans le régénérer, le troisième pilier du triptyque, c'est qu'il faut évidemment rien s'interdire pour que dans les territoires fragiles, les jeunes entreprises puissent émerger. Il est possible aujourd'hui, par la voie de la négociation, syndicale, de permettre certaines dérogations aux jeunes entreprises. Donc nous, ce que nous disons dans le rapport, c'est qu'il faut que les partenaires sociaux puissent essayer de se saisir de cela pour que, dans les territoires fragiles et pour les jeunes entreprises, quelques dérogations puissent être données.
Encore un mot, là aussi c'est un enseignement de la période, l'enseignement à distance s'est développé dans les universités, dans le supérieur. Il y a une importance grande de l'enseignement supérieur dans les territoires, à proximité, et vous dites il faut mettre en place des campus où on développerait un enseignement hybride, à moitié en présentiel, à moitié à distance.
Oui, là où le rapport tranche peut-être avec ses prédécesseurs, c'est qu'il dit il faut traiter cette question des compétences dans les territoires fragiles, pour des raisons économiques, parce qu'il faut trouver des compétences pour les entreprises, mais pour des raisons aussi d'équité et de lutte contre les inégalités. Parce que s'il y a bien une inégalité qui est très importante en France, c'est que le département où on est conditionne votre accès à l'enseignement supérieur. Et donc là où notre proposition tranche, c'est que nous disons qu'il faut rapprocher l'enseignement supérieur et la formation professionnelle des territoires qui n'en disposent pas. Avec effectivement des campus hybrides, avec des mobilités ou des facilités données à la mobilité des enseignants-chercheurs. Nous l'avons vu à Vierzon, où un campus urbain va s'installer sur une friche industrielle qui était là depuis 25 ans, qui était inoccupée en plein centre-ville. Nous l'avons vu à Foix, en Ariège, où une unité de l'université de Toulouse s'est installée et en 2016, a créé la première licence pluridisciplinaire, et c'était la seule option d'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes ariégeois. Et donc nous disons, dans les territoires fragiles et fragilisés, il faut imaginer des initiatives de ce type-là.
Je voudrais garder une minute, vous n'êtes pas venu pour ça, mais pour parler d'abstention, parce que vous êtes le co-auteur d'un livre blanc sur l'abstention, qui est un sujet diablement d'actualité. Au détour de ce rapport, vous dites qu'une mesure du mal-être dans les territoires relégués, c'est l'abstention. Il y a un lien robuste avec l'évolution du taux d'emploi, avec la fermeture d'un commerce alimentaire. L'abstention, suit tout cela directement. Une mesure pour lutter contre l'abstention, ce serait laquelle, de votre point de vue, Jean-Noël Barrault ?
Ah, l'abstention, elle a des causes multiples. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit dans le livre blanc. Il y a évidemment tout ce qui peut faciliter l'accès au vote, le vote à distance, l'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, 9 millions de Français ne sont pas inscrits dans la commune où ils résident. Et ces Français-là s'abstiennent beaucoup plus que les autres. Il y a évidemment une réforme institutionnelle qui semble indispensable. Nous défendons au MoDem, avec François Bayrou, le principe de la proportionnelle. Mais Mais vous avez raison, il y a aussi toutes les réformes et toute la manière dont nous pouvons traiter de ce déclin industriel qui est le grand oublié des politiques publiques des décennies passées. Si nous traitons ce sujet, alors sans doute nous rapprocherons les citoyens des urnes.
Merci Jean-Noël Barrot d'être venu dans les studios de France Inter et on trouve facilement ce rapport sur Internet. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif de l'histoire dans 10 minutes, après les régionales justement et avant l'été, promenade à la campagne aujourd'hui?
Oui, je vais être bottom-up. Je vais partir d'un département d'Éprise, la Haute-Marne, ouais. Avec un auteur qui ne veut pas lâcher prise.
Et voilà, un homme sensible au vocabulaire. Tiens, à propos, on apprendra grâce à vous que les habitants de Bar-sur-Aube s'appellent les...
Les Bragards, évidemment.
Ou les Bar-Albins.
Non, les Bar-Albins. C'est ceux de Saint-Dizier qui s'appellent les Bragards.
Le feuilleton, ce sera avec la grande photographe Sabine Weiss. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
En ce premier jour de fête du cinéma, un réalisateur à votre micro, Cédric Clapiche, qui présidait le jury du Grand Prix du festival Les Ailleurs, qui se déroule, tiens, d'ailleurs, toujours jusqu'au 18 juillet, Gaîté Lyrique à Paris.
Et il ne s'agit pas d'un festival de cinéma, non, mais d'un festival dédié aux expériences immersives, des installations en réalité augmentée qui vous permettent, par exemple, de chanter avec des méduses,
ah bon,
ou bien de vous propulser sur la Lune. On vous installe un casque et vous y êtes vraiment, je l'ai fait. J'y étais et Cédric Clapiche y est allé lui aussi.
Le festival s'appelle Les Ailleurs et je trouve que c'est un bon nom pour ce festival. C'est-à-dire que ça raconte d'aller ailleurs ou de voir ailleurs. Ça présente des œuvres en VR, quoi, en réalité virtuelle, donc avec un casque, en tout cas avec des systèmes immersifs. Et du coup, ça amène ailleurs, quoi. Ça développe cette idée de réalité virtuelle sur le fait que c'est à la fois dans la réalité, à la fois dans la virtualité, un peu entre les deux. Donc c'est très intéressant de découvrir tout ça.
Vous avez travaillé, vous, déjà avec la VR ?
Jusqu'à présent, non. J'ai pas travaillé avec la VR. On m'a posé la question à un moment de filmer de la danse en VR. Et je m'étais posé la question. Il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup. C'est le fait qu'il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire que comme on a un casque et qu'on filme en 360 degrés, quoi, on peut se retourner, regarder autour de soi, en l'air, par terre. Il n'y a plus de cadre. Et moi, j'ai l'impression d'avoir été formé par la photographie, par la peinture, où il y a un rectangle. Il faut faire rentrer des choses dans un rectangle. Et du coup, c'est complètement une autre dimension, quoi.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central.
Et Cédric Clapiche a donc choisi de nous faire écouter une chanson de Feu Chatterton.
Nouveau monde, ou plutôt monde nouveau, l'un des titres du dernier album du groupe parisien. On en rêvait tous, mais que savons-nous faire de nos mains, interroge les paroles de cette chanson. Mais que nous raconte-t-elle vraiment cette chanson et que nous raconte le chanteur de Feu Chatterton dans cette chanson? C'est ce que j'ai demandé à Cédric Clapiche.
Je pense qu'ils ont voulu parler du réchauffement climatique et qu'en fait, c'est tombé au moment du coronavirus et du fait d'être enfermé chez soi et que le monde nouveau, il a un double sens, en fait, dans cette chanson. Pendant cette crise sanitaire, on a inventé l'expression « le monde d'avant, le monde d'après », qui est donc le monde nouveau, celui qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera. Et donc, la chanson, pour moi, parle de ça.
Le monde de demain, on le bégayait tout. N'y comprendra rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse.
Vous, vous espérez quoi dans le monde nouveau?
Bah, déjà, moi j'espère un monde nouveau. C'est-à-dire plutôt que de dire essayons de garder ce qu'on a et c'est super si on continue les avions, la pollution, la course à la croissance, toutes ces choses-là. Et on se rend compte que le confinement a accéléré le processus, ne serait-ce que l'utilisation du vélo dans les villes, des gens autour de moi qui soit ont acheté des maisons de campagne, soit sont carrément partis à la campagne, qui achètent des poules, qui me disent « j'ai fait un potager ». Moi, autour de moi, j'ai quand même vraiment une dizaine, vingtaine de personnes qui sont parties de Paris, toute l'histoire du télétravail aussi, comment tout ça permet d'aller travailler ailleurs, bah ça crée un monde nouveau justement.
Quand vous entendez cette chanson-là, est-ce que vous réfléchissez à toutes ces questions-là, ce dont on est en train de se parler ?
En fait, ce que j'aime bien dans ces chansons-là, c'est comment il n'y a pas un discours, disons, dans la chanson. Il y a quelque chose qui est plus poétique. C'est du langage non fini, je dirais. C'est-à-dire qu'on doit finir les phrases nous-mêmes. Et du coup, ça amène une sorte de réflexion, d'évocation qui nous met dans un état musical, quoi.
Monde nouveau, Feu Chatterton, que nous faisait donc écouter le réalisateur Cédric Clapiche, Frédéric.
Cédric Clapiche, oui, qui présidait donc le jury du festival Les Ailleurs à Gaîté Lyrique à Paris, c'est jusqu'au 18 juillet, courez-y, c'est bluffant.
Vous m'emmènerez chanter avec les méduses ?
Nous irons.
13h50. Troisième moment de la semaine avec la grande photographe Sabine Weiss. C'est notre feuilleton au micro d'Isabelle Pasquier. Sabine Weiss qui aura 97 ans le mois prochain, pendant les rencontres photographiques d'Arles, a exploré beaucoup de domaines de la photo, la publicité, la mode, les portraits d'artistes et d'anonymes. C'est après la Seconde Guerre mondiale que sa carrière a pris son essor. Elle est alors dans la vingtaine, la première trentaine, une jeune femme photographe dans un milieu d'hommes.
Oui, j'étais très jeune, mais enfin, j'ai pas la première, il y a quand même eu beaucoup de femmes photographes.
Est-ce que vous fréquentiez toute la bande à Douaneau, Willy Ronis, Cartier-Bresson ?
Je les voyais parce qu'ils travaillaient tous pour l'agence RAFO. Et alors, à RAFO, c'était très sympathique. À l'heure du thé, tous les photographes qui étaient dans le quartier venaient et m'en buvaient du thé. Il y avait une atmosphère très sympathique.
Est-ce que c'était un handicap à l'époque d'être une femme pour faire de la photo ?
Oh, c'était pas un handicap pour rien, je crois, d'être une femme. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été pour moi. Enfin, en tant que photographe, il n'y avait qu'une situation. C'était des situations où il y avait beaucoup de photographes quand il y a un événement. Alors moi, je me faufilais. Alors il me disait, non, allez, ma petite dame, laissez faire les photographes. Alors je faisais mes photographies quand même. Je ne me laissais pas faire. Mais enfin, j'étais plutôt dénigrée. Je n'étais pas photographe puisque j'étais une femme.
Avec la cigarette souvent à la bouche.
Ah, la cigarette, oui, ça c'était très très longtemps. Mais ça fait quand même pas mal d'années que je ne fume plus. Mais j'ai beaucoup fumé. Il fallait quand même mes 3 paquets par jour. C'était simplement une habitude. Je me levais, je m'allumais une cigarette.
Vous avez le sentiment qu'il y a un regard de femme, que ça transparaît dans vos photos ?
En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour les gens de la rue, les indigents. Ça touche beaucoup. J'étais quand même d'une famille bourgeoise où on manquait de rien. Je ne voyais pas la pauvreté. Je voyais le regard, je voyais quelque chose dans le personnage. Mais c'est maintenant que je vois. J'analyse les photos, je dis, mais mon Dieu, ces enfants étaient abîmés avec des choses déchirées, reficelées. Je me suis tellement laissée aller à la photographie, à tout photographier, qu'évidemment, ça, il y a beaucoup de documents qui témoignent de choses qu'on n'a plus maintenant. J'étais jamais très intriguée de voir la photographie des autres. Je crois que j'étais très prétentieuse. La mienne, elle me suffisait. Pas qu'elle était meilleure, mais elle me suffisait.
C'est ça qui vous a surtout motivée dans la photo, c'est de capter ce qu'il y a derrière un visage.
Je ne sais pas, ça peut être une attitude drôle. On peut tout capter. Je peux capter votre regard et ce que vous pensez à ce moment qu'avec mon appareil.
Comment vous le qualifieriez, votre regard ? Nous, on y voit beaucoup d'humanité, de poésie, de malice même.
Je dirais quotidien, immédiat, fouillant les choses, s'imposant aussi. Parce qu'il faut s'imposer aussi quand on fait une photo. Est-ce qu'on va être vu avant qu'on fasse la photo ? Est-ce qu'on va être pendant, après ? Est-ce que cet homme va être heureux que je photographie ? Est-ce qu'il va être étonné ? Je trouve que je ne rencontre pas beaucoup de photographes qui aient fait autant de domaines, des choses très variées. Je crois que je n'étais pas consciente que je faisais des choses aussi variées. Parce que je photographiais aussi bien un homme d'affaires qu'un clochard. J'aimais mieux photographier le clochard parce qu'au moins j'avais un petit rapport avec lui. Quelquefois, quand vous photographiez des gens politiques, très politiques, il faut faire gaffe, il faut rien dire.
Et nouveau rendez-vous avec Sabine Weiss et Isabelle Pasquier demain dans le feuilleton.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun après les régionales et pour aller doucement vers la fin de saison. Dans le vif de l'histoire jusqu'à vendredi, vous nous proposez une série de promenades. Nourries de lecture évidemment, promenade en province. Alors installons-nous dans un de ces confortables fauteuils, dit fauteuil Voltaire par exemple, pour partir en voyage en Haute-Marne. 140 000 habitants, il y a sans doute plus d'animaux d'élevage que de têtes humaines. Et ce département, touché par la désertification rurale, n'a pas échappé au Covid.
Même pas. La diagonale du vide, sur laquelle se tient la Haute-Marne, peut appeler une poétique de l'abandon, de la ruine. Et quand elle est traversée par la mort, le Covid, notamment dans les EHPAD, la catastrophe approche-t-elle? Alors, la poétique du vide, la catastrophe, la mort, ce sont les thèmes d'élection de Henri-Pierre Jeudy, qui publie chez Créafis, un sociologue, dans un Voltaire. Vous avez dit ce que c'était qu'un Voltaire. Voltaire a habité ce département. Et un sociologue, Henri-Pierre Jeudy, est plutôt un méditatif qui ne s'est jamais préoccupé de grands travaux intellectuels d'intérêt général, ni de chantiers culturels. Il trouve qu'il y a déjà assez de culturel comme ça. Et les circonstances ont fait qu'il s'est installé à la campagne pour tenter une aventure intellectuelle, mettre sa pensée, ses idées, ses émotions à l'épreuve d'un paysage rural. Alors c'est pas toujours facile parce que la nuit tombe tôt l'hiver. Mais le matin, notre homme reprend une à une toutes les questions qui l'ont obsédé le long de son parcours. Alors il se tient sur son canapé, allongé, pour réfléchir, ses amis vont rigoler, ou à sa fenêtre pour guetter les imperceptibles changements de la nature. Ou bien, il observe la colline couverte de forêts depuis le perron, tandis que les fantômes de sa maison de famille le pressent de les rejoindre à l'intérieur. Le bureau, le perron, la cheminée aussi, ce sont les quelques endroits où il aime se tenir. Le philosophe Bachelard, Gaston Bachelard, son voisin, puisqu'il était...
Bar-Albin.
Oui, natif de Bar-sur-Aube, disait le coin... et la case de l'être.
Comment voit-on autrement quand on est à la campagne?
On voit mieux le ciel, déjà. Aux nuages, on peut être tenté de prêter tout de go des physionomies animales ou humaines. Mais il faut aller au-delà. Bachelard, le Bar-Albin, disait « L'imagination ne dresse pas le répertoire des images premières, l'imagination s'emploie à les changer. » J'aime bien cette autre phrase, ça, c'est d'Henri-Pierre Jeudy. Ça sonne comme un programme. Depuis que je suis à la campagne, je passe un temps flou à regarder ce que je ne voyais pas.
Alors la campagne, c'est un retranchement. On est à la fois retiré du monde, tout en y étant encore.
Oui, on vit dans un temps un peu différé. C'est la position que devrait préférer le sociologue, qui n'est pas là pour commenter l'immédiateté. Dans les campagnes de plus en plus dépeuplées, vivent ces mathématiques des originaux de plus en plus nombreux. Alors, la Haute-Marne n'est pas la Drôme, mais elle a aussi ses facteurs cheval. Ainsi, ce menuisier que décrit longuement Jeudy, il construit sous sa maison une excavation et il la voudrait grande comme une cathédrale. La catastrophe a aussi ses conjurateurs, qui se constituent en groupes festifs qui s'acharnent à montrer qu'on peut rester ensemble. Ainsi, d'un village de 100 habitants devenu culte, près de Colombey-les-Deux-Églises, Blumeray, Jeudy, lui a consacré un livre entier. Un café y a pointé le nez juste avant les confinements. Du sociologue dans un Voltaire, on pourrait d'ailleurs tirer un guide, au moins rétrospectif, des cafés de Haute-Marne. Exemple, feu celui de Madame Lily, une élégante qui aurait tenu commerce de luxure autant que de liqueur. Maîtresse femme, fumeuse invétérée, elle avait décoré ses étagères d'objets pornographiques. Et quand elle déclara un cancer du poumon, elle les remplaça par des clichés de l'évolution de sa maladie. Comme dans une galerie d'art, dit Jeudy. En Haute-Marne, le mot culturel n'a pas nécessairement le même sens que dans les bureaux du ministère de la Culture.
Et à l'entendre ou le lire, ce serait un bel endroit pour attendre la fin du monde.
Oui, enfin, en tout cas, on y mesure mieux qu'ailleurs la sédimentation du temps. C'est pas par hasard que se construit à Bure, aux confins du département et de la Meuse, un site d'enfouissement des déchets nucléaires. Et dans ce processus de décomposition qui nous aspire tous, Henri-Pierre Jeudy, dans un de ses plus beaux livres, tente de faire entendre sa voix qui dit « Ne m'oubliez pas ».
Henri-Pierre Jeudy, un sociologue dans un Voltaire, édition Créafis. À demain, Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, le programme.
Oui, on parle de l'écologie dans les quartiers populaires.
À tout de suite.